dessous de l'Infox. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Soyez les bienvenus à l'écoute des RFI.
Les dessous de l'Infox.
Dans la tête des complotistes, c'est le défi que s'est lancé William Oduro. C'est aussi le titre de son livre. Cet ouvrage qui vient de paraître chez Alary Éditions dévoile les nombreux chemins qui mènent au complotisme, les chemins aussi qui permettent d'en sortir. Autrement dit, une plongée au cœur de la mécanique de pensée conspirationniste. William Oduro est notre invité. Dans la chronique des Dessous de l'Infox avec vous ce soir, Sophie Malibaud, nous revenons sur les conséquences de la crise sanitaire.
Des mamans protectrices, mais aussi complotistes, enquêtent sur le collectif des mamans louves.
Et puis, bonsoir Alexandre Capron.
Bonsoir Adrien.
Des observateurs de France 24, vous avez enquêté sur les faux comptes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Les Dessous de l'Infox, une émission réalisée ce soir par Claude Battista. Place à présent à la chronique des Dessous de l'Infox. Et pour cela, nous sommes avec Sophie Malibaud. Bonsoir.
Bonsoir, Adrien.
Accompagnée de Grégory Genevrier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous parlons ce soir du port du masque à l'école. Nous évoquons la vaccination pour les 5-11 ans. Les enfants sont de plus en plus concernés par la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid. Face à cela, la contestation s'organise. En France, le mouvement des mamans louves prend de l'ampleur. Ce mouvement réclame l'ouverture d'un débat public sur la question. Mais alors tout d'abord avec vous, Grégory, quelles sont leurs réelles motivations et puis qui sont-elles ?
Alors à première vue, on a affaire à des mères inquiètes pour leurs enfants, mais ce qu'elles craignent le plus, ce n'est pas le coronavirus, mais les effets des mesures sanitaires. Exemple avec l'obligation du port du masque, qu'elles qualifient comme de la maltraitance. Leur première apparition, elle remonte au 4 novembre dernier. Elles manifestent alors à deux pas de l'Elysée, avant de remettre une lettre à Emmanuel Macron. Leur revendication, c'est l'ouverture d'un débat public sur la situation des enfants durant cette crise sanitaire. Ce samedi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, ces mamans mèneront une nouvelle action. Elles ciblent cette fois-ci les préfectures et mairie de France et compte inonder les réseaux sociaux avec le hashtag Maman Louve.
Oui, alors il suffit d'aller voir leurs échanges sur la messagerie cryptée de Telegram pour comprendre que derrière le flou de leurs revendications se cache un discours complotiste. La chef de file des Mamans Louves, Roxane Chaffet, en est tellement consciente qu'elle demande aux membres du collectif de s'auto-censurer. Le but, dit-elle, c'est, je cite, la médiatisation à mort. Et elle explique que pour franchir la barrière médiatique, il faut rester modéré pour ne pas fâcher. On s'aperçoit pourtant que les thèses complotistes, vaccins létals, masques dangereux, manipulation des élites, etc., ces thèses sont au cœur des discussions de ce groupe qui réunit plus de 7000 personnes sur Telegram et plus de 11000 sur Facebook.
Alors, au-delà de ces échanges, Grégory, c'est aussi le profil de la représentante des Mamans Louves, Sophie en parlait, Roxane Chaffet, qui interroge.
Eh bien oui, puisque ses fréquentations en disent long sur l'orientation du mouvement qu'elle dirige. Dans un film qu'elle a récemment réalisé, elle s'affiche notamment avec des figures de proue de la désinformation, comme Louis Fouché du site Réinfo Covid, l'ancien médecin Denis Agrès ou encore l'ex-figure des Gilets jaunes Gabin Formont. Plus récemment, elle apparaît sur une vidéo YouTube avec Yannick Lescure, un militant politique déguisé en youtubeur cuisine et qui rêve au final d'instaurer le national-socialisme en France. Fait intéressant et révélateur également, seuls les médias visiblement à l'aise avec l'idéologie complotiste ont donné la parole à Roxane Chaffet. C'est le cas de Sud Radio, de Radio Courtoisie ou encore de RT France.
Alors l'injonction légitime d'un débat sur les mesures qui touchent les enfants dissimule en fait, dans ce cas-là, des théories défendues, notamment par une ultra-droite conservatrice réfractaire à toute action de l'État en matière de santé et d'éducation. Le fait que l'on soit dans une situation d'exception en ce moment avec cette pandémie de Covid-19 passe au second plan quand elle n'est pas purement et simplement niée. Les infox partagées sur le masque ou la vaccination créent donc un climat de défiance vis-à-vis de l'éducation nationale. Certaines mamans s'encouragent à mettre la pression sur les chefs d'établissement. Le danger de ce type de discours, eh bien, c'est l'incitation à la déscolarisation au prétexte du respect de l'intégrité physique et psychologique des enfants.
Parmi les mamans de ce groupe, on imagine que certaines ne sont sans doute pas conscientes des thèses qui sous-tendent ce mouvement. En tout cas, l'émergence de ces mamans louves n'intervient pas au hasard, puisqu'elles tentent de s'immiscer dans le débat public à un moment charnière où l'Agence européenne des médicaments se penche sur la vaccination pour les 5-11 ans.
La chronique des dessous de l'Infox, présentée par Sophie Malibaud, Grégory Genevrier, merci beaucoup à tous les deux. Et rendez-vous vendredi prochain. Et enfin, vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Et puis, pour nous signaler les infos qui vous semblent douteuses, rendez-vous sur notre WhatsApp 33 6 89 07 61 09. Je répète, 6 89 07 61 09. Et puis sur notre page Facebook, Les Dessous de l'Infox. Place à présent à l'invité des Dessous de l'Infox, William Audureau, journaliste pour le quotidien français Le Monde et auteur du livre Dans la tête des complotistes. Entre deux conférences à Paris sur le complotisme, nous sommes allés à sa rencontre. William Audureau, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, pour vous immiscer dans la tête des complotistes, comment avez-vous fait? Quelle a été votre méthode?
Alors, j'ai essayé de me présenter, tout simplement, sachant que j'ai parlé aussi bien des personnes en fait, de mon entourage. Donc, c'était évidemment un peu plus simple avec elles. Également, à de parfaits inconnus que j'avais un petit peu repérés sur les réseaux sociaux. Je voyais les contenus qu'ils partageaient. Et j'ai essayé d'aller leur parler en message privé, leur demandant, ben, voilà, j'écris un livre sur le complotisme, j'aimerais bien comprendre, est-ce que vous voulez bien m'en parler. Certains m'ont envoyé bouler, hein, très clairement, et d'autres ont été intéressés par la démarche.
Alors justement, pas facile forcément d'approcher un complotiste pour qu'il vous livre sa parole.
Ah ben surtout quand on est journaliste de vérification. Il y en a beaucoup qui me considèrent très clairement comme un ennemi. Mais je pense que la plupart d'entre eux étaient contents de pouvoir s'expliquer un petit peu, puisqu'ils sont nombreux à se sentir ostracisés, caricaturés, mal compris. Donc j'ai essayé de leur vendre, non pas que j'allais écrire un livre positif sur le complotisme, mais au moins essayer vraiment de comprendre comment ils pensaient, quelles étaient leurs valeurs, etc. Et je pense que c'est quelque chose auquel la plupart ont été sensibles en tout cas.
Plusieurs portraits hein, dans votre ouvrage, William Audureau, intitulé « Dans la tête des complotistes ». Alors, vous dites qu'il n'y a pas de portrait type du complotiste. Hein. Ça touche toutes les classes de la société.
Je pense qu'on peut absolument tous, effectivement, rentrer dans une lecture conspirationniste du monde. Et de toute façon, il y a différents degrés, en fait. J'ai envie de dire que le complotisme commence avec la méfiance. Évidemment, plus il se développe, plus il devient un système de représentation totale, systématique du monde, plus on rentre dans le complotisme dogmatique. Mais fondamentalement, je veux dire, moi, par exemple, en tant que journaliste, ça m'arrive très souvent, lorsque j'échange avec des gens sur Internet, de me demander est-ce que je ne suis pas face à des trolls. Et puis, on va se poser des questions sur peut-être des personnes qui diffusent des fausses informations, on se demande s'il n'y a pas derrière des puissances étrangères. C'est déjà en soi un raisonnement de type conspirationniste. Après, toute la question de savoir est-ce qu'il est fondé, est-ce qu'il est documenté, est-ce qu'on est dans quelque chose qui s'accroche à du réel ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève du fantasme.
Vous dites aussi que ça rassure d'être complotiste. On est investi d'une mission.
Oui, alors déjà, tout d'abord, le complotisme, fondamentalement, c'est un mythe. C'est une explication au phénomène du monde. C'est-à-dire que face à de l'incertitude, au lieu d'être dans cette espèce d'instabilité où on ne sait pas exactement ce qui se passe, ni quel est le sens des événements, là, on a une explication. Là, on a, pour aller vite, des gentils, des méchants, en caricaturant un petit peu. Donc là, il y a un premier effet pommade pour soi. Et le deuxième effet, c'est que comme on a l'impression d'avoir compris, effectivement, c'est difficile de ne pas avoir envie de répandre, entre guillemets, la bonne parole. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les complotistes. C'est l'idée qu'il faut réveiller les autres. Nous sommes les premiers éveillés, nous sommes entourés de moutons. Mais on est une espèce d'élite qui se veut bienveillante par rapport aux autres et essayer de les entraîner avec nous. Il y a une posture qui est assez contradictoire là-dessus.
En ce sens, le complotiste a-t-il un complexe de supériorité?
Alors, est-ce que c'est un complexe de supériorité qui est tout à fait sincère? C'est difficile à dire. Mais je pense que très souvent, ce sont des personnes qui ont des choses à se prouver pour des raisons qui sont très, très compréhensibles et qui trouvent dans le complotisme la reconnaissance qu'ils n'ont pas forcément trouvée soit dans leur monde professionnel, soit dans leur monde, soit de leur vie amoureuse. Le complotisme, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement valorisant. D'ailleurs, quand on écoute tout leur vocabulaire, on est dans quelque chose de très romanesque. Ce sont les chercheurs de vérité, des résistants. Ils mènent un combat, une guerre. Il y a quelque chose de chevaleresque dans le complotisme, tel qu'on se le raconte, en tout cas.
La complexité du sujet aussi s'illustre par ce mouvement qui se nourrit de faits réels. C'est là où ça reste tendancieux aussi.
Oui, bien sûr. Alors, il y a cette phrase qui est souvent attribuée à Paul Valéry, j'ai jamais réussi à retrouver la trace, qui dit « le mélange de vrai et de faux est beaucoup plus dangereux que le faux ». Et c'est tout à fait la force du complotisme, c'est qu'évidemment, il va se nourrir d'éléments qui sont vrais. Alors ça peut être d'authentiques scandales, il y en a. Hein. On peut parler du fait que le gouvernement soit contredit sur les masques, par exemple, ou du Lancet-Gate, bon, j'aime pas beaucoup le terme, l'idée que la prestigieuse revue du Lancet ait publié une étude frauduleuse, par exemple, ce sont des choses qui sont documentées. Mais après, elles vont être instrumentalisées dans un discours de méfiance généralisé. Et c'est là où ça devient difficile, c'est de réussir à tracer finalement le périmètre entre ce qui relève d'une indignation légitime, parce que sourcée, et ce que je disais, une généralisation presque pathologique de la méfiance.
Vous êtes, je le disais aussi, un journaliste pour le quotidien Le Monde. On ressent aussi à travers votre ouvrage que finalement chacun est de son côté et qu'une barrière nous sépare. Comme si le fact-checking, les vérifications de faits, d'informations, n'avaient plus d'impact sur les complotistes.
Alors, je ne sais pas si le journalisme de vérification a eu un jour un impact sur le complotisme. J'ai signé cet été une série sur les protocoles des sages de Sion, qui est donc un faux antisémite qui date du début du XXe siècle. On sait depuis extrêmement longtemps que c'est un faux. Et dès 1921, le Times écrivait déjà un article, une sorte d'ancêtre du journalisme de fact-checking, pour expliquer que c'était un faux, qu'on avait les preuves qu'il s'agissait d'un faux. Et ça n'empêche absolument pas que ce document continue de circuler et d'être cité comme une espèce de secret révélé dans les sphères complotistes. Donc c'est un petit peu le problème, c'est un type de raisonnement qui est assez immune à la contradiction.
Et puis dans votre ouvrage, William Oduro, vous avez rencontré des repentis du complotisme.
Oui, tout à fait, parce qu'il y en a, hein, évidemment. C'est des personnes qui sont souvent très, très touchantes, puisqu'elles s'en veulent, elles savent qu'elles se sont un petit peu laissées piéger et emporter dans leur envie de comprendre, dans leur satisfaction d'avoir eu le sentiment d'avoir compris, et qui aujourd'hui, pour la plupart, pointent les dangers de ce type de raisonnement, en expliquant, attention, quoi, on ne se rend pas compte, une fois qu'on est dedans, qu'en fait, on nage dans beaucoup de représentations complètement délirantes du monde. Et c'est le grand paradoxe du complotisme. C'est au moment où on se pense en plein milieu du plus grand moment de lucidité de notre vie qu'on est le plus souvent le plus friable aux fausses informations, aux représentations qu'on trouvait, etc. Donc ces personnes-là, en général, oui, elles
reconnaissent qu'elles ont fauté.
Qu'elles ont fauté, en tout cas, oui, elles reconnaissent qu'elles se sont égarées. Il y a rarement la fierté. Souvent, on s'en veut, en fait, hein, quand on est dans le complotisme et qu'on en sort. On s'est fait avoir, on s'est fait berner. C'est quelque chose qui est assez dur à s'admettre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent, il est beaucoup plus coûteux d'en sortir que d'y rester. Ça, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, on est un peu au chaud avec des représentations conspirationnistes du monde. Mais par contre, d'un seul coup, se regarder dans un miroir et se dire... Oups, en fait, là, je suis en train de m'envelopper de représentations complètement délirantes et de me mentir à moi-même. Ça, c'est douloureux. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains reconnaissent être revenus au complotisme parce que c'était beaucoup trop dur de vivre sans.
Et puis enfin, William Oduro, votre livre leur tend la main aussi. C'est important de ne pas rompre le dialogue avec un complotiste.
Oui, mais je ne vais pas me poser comme donneur de leçons, parce qu'en fait, c'est la première erreur que j'ai faite, et je pense qu'on est nombreux à la faire, c'est de vouloir rentrer dans le débat, c'est de vouloir dire « non mais tu racontes absolument n'importe quoi » et expliquer par A plus B pourquoi c'est faux. Et très objectivement, je pense avoir des raisons objectives de croire que j'ai les bonnes raisons de le faire. Sauf que, d'un point de vue humain, ça ne marche pas. D'un point de vue humain, ça crée davantage de divisions encore auprès de personnes qui souvent ont déjà une représentation assez manichéenne du monde, qui le voient déjà comme une espèce d'opposition frontale, presque comme une guerre culturelle. Et en fait, le risque, tout simplement, c'est de laisser des personnes un petit peu glisser, s'enfermer avec d'autres personnes avec qui elles seront d'accord. C'est la voie de la radicalisation, tout simplement. Et pour lutter contre cette radicalisation, en fait, ces personnes avec lesquelles on n'est évidemment pas en désaccord, je pense qu'il faut faire tout pour les maintenir dans notre giron. C'est un petit peu du jeu de go, quoi. Il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de pièces qui entourent les éléments qui sont un petit peu isolés, parce que sinon, il y a le risque qu'elles se fassent complètement retourner. Et quand elles sont complètement retournées, elles sont perdues.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, William Oduro.
Merci beaucoup.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste pour le quotidien français Le Monde et auteur du livre « Dans la tête des complotistes » qui vient de paraître. Bonne fin de journée, à bientôt.
Merci.
À l'écoute d'RFI, nous retrouvons Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Et comme je le disais, Alexandre, vous avez enquêté pour l'émission Info ou Intox sur les faux comptes que l'on retrouve sur les réseaux sociaux.
Adrien, je suis sûr que vous y avez vous aussi déjà été confronté. Vous voyez des comptes sur les réseaux sociaux, parfois ils interagissent avec vous. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, même si la photo de profil semble très réaliste. Eh bien, très souvent, ces photos de profil ultra réalistes viennent d'un site qui s'appelle « This person does not exist », « Cette personne n'existe pas » en français. C'est un site internet gratuit qui génère aléatoirement des visages créés par une intelligence artificielle, des femmes, des hommes et même des enfants. C'est assez troublant tellement c'est réaliste.
Alors Alexandre, justement, quels sont les conseils que l'on peut donner à nos auditeurs pour repérer ces fausses photos de profil ?
L'indice le plus flagrant concerne la position des yeux. Ces derniers sont toujours alignés selon une grille fixe et donc ils sont toujours positionnés au même endroit. Ensuite, il faut être particulièrement attentif et zoomer sur la photo. Généralement, vous savez, les pupilles humaines sont toujours parfaitement rondes. Mais dans le cas de nos photos, l'intelligence artificielle n'arrive pas à faire une pupille qui est ronde et donc on va avoir des formes totalement irrégulières. On peut aussi regarder l'arrière-plan. Il est souvent flou. Et quand il ne l'est pas, l'intelligence artificielle a beaucoup de mal à créer quelque chose de cohérent, comme par exemple un paysage ou un bâtiment. Enfin, chose amusante, si la personne sur la photo a des accessoires, comme par exemple des lunettes ou des boucles d'oreilles, eh bien regardez-les attentivement, parce que souvent, il manque par exemple une branche aux lunettes, et quant aux boucles d'oreilles, elles sont souvent différentes l'une de l'autre.
Vous avez interrogé Alexandre Victor Bessé, qui a utilisé justement ces techniques pour enquêter sur ces faux comptes de militants.
Oui, il a identifié au moins 8 comptes créés de toutes pièces avec des fausses photos de profil venant de « This person does not exist » avec des noms d'emprunt. Ces comptes, ils affirmaient faire partie d'une fondation baptisée Lou et Noah, qui passaient leur journée à troller les utilisateurs sur Twitter en se faisant passer pour des militants d'extrême-gauche ou écologistes. Ces comptes avaient un discours totalement absurde et parfois, c'était vraiment de mauvais goût. Vous allez entendre Victor Besset qui m'a expliqué comment un de ces comptes a lancé une cagnotte pour changer de sexe.
Ces faux profils veulent imiter certains types de militants et notamment des militants qui sont des personnes transgenres. Et les personnes transgenres peuvent parfois vouloir faire des opérations chirurgicales pour devenir la personne qui se sent réellement être. Un des trolls s'est dit, je vais faire pareil. C'était un troll qui se considérait comme une femme, donc il avait l'image d'une femme et qui voulait devenir un homme. Ils avaient lancé cette cagnotte, non pas dans le but de récupérer de l'argent, mais dans le but de se moquer de manière extrêmement méchante, cruelle de ces gens-là.
Adrien, c'est impossible de savoir exactement qui se cache derrière ces comptes, mais la conclusion de tout ça nous a été résumée par Victor Besset. Ces comptes, derrière une apparence humoristique, sont un danger pour la démocratie, car leur objectif, c'est d'investir l'espace public et de noyer les discours constructifs des militants politiques derrière de fausses thématiques parodiées à l'extrême.
Merci Alexandre Capron des Observateurs de France 24. Et puis je précise que cet épisode est disponible depuis aujourd'hui sur le compte Twitter Info Intox France 24 et puis sur les réseaux sociaux des Observateurs. Nous vous retrouvons très vite sur Radio France Internationale, Alexandre, pour de nouveaux conseils en matière de vérification.
Vérification faite.
Ainsi se referment les dessous de l'Infox pour cette semaine. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez François Bernard derrière ce micro. Nous nous quittons ce soir avec L'odeur de l'essence, extrait du dernier album du rappeur français Aurel San sur RFI. Bonne soirée.
La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe.
connards fachos, connards hystériques. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution.